Évangile selon Jean, chapitre 5. Au réservoir de Bethesda, versets 1 à 9.
Lecture de la parole. Après ces choses, il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir d'eau, appelé en hébreu Bethesda, ayant cinq portiques, dans lesquels étaient couchés une multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux et de gens qui avaient les membres secs, attendant le mouvement de l'eau. Car, à de certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir et agitait l'eau. Le premier donc qui entrait après que l'eau avait été agitée était guéri, de quelque maladie qu'il fût pris. Or, il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et sachant qu'il était dans cet état déjà depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne qui, lorsque l'eau a été agitée, me jette dans le réservoir, et pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton petit lit et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Et il prit son petit lit et marcha.
Lecture de l'étude. Après ces choses, il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem, verset 1. Les chapitres 5, 6 et 7 commencent tous par ces mots « après ces choses », qui sont les révélations importantes des pensées de Dieu apportées par le Seigneur. Ces vérités, toujours présentées en contraste avec la loi et l'état de l'homme sous cette loi, font le sujet spécial des chapitres 4 à 10. Au chapitre 4, nous avons vu Jésus faisant connaître Dieu comme celui qui donne et cherche des adorateurs. Ceux-ci, à leur tour, le connaissent comme Père qui se manifeste en Christ, le Sauveur du monde et non seulement des Juifs. Au chapitre 5, on voit Jésus comme le Fils de Dieu, vivifiant l'homme mort quant à Dieu. Dans le chapitre 6, c'est Jésus, le Fils de l'homme, le pain de Dieu venu du ciel pour donner la vie au monde, ce qui nécessitait sa mort. C'est pourquoi il faut se nourrir de sa chair et boire son sang pour avoir la vie éternelle, savoir croire en un Christ mort. Toutes ces vérités fondamentales du christianisme constitue ces choses révélées en ordre dans cet évangile. Jésus monte à Jérusalem. Nous ne savons quelle fête avait lieu, mais le Seigneur y trouva un triste tableau de l'état du peuple. Il y avait, près de la porte des brebis, un réservoir d'eau appelé en hébreu Bethesda, ayant cinq portiques dans lesquels étaient couchés une multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux et de gens qui avaient les membres secs, attendant le mouvement de l'eau, versets 2 et 3. Pour cette porte des brebis, voir Néhémie 3, verset 1.
Alors Éliashib, le grand sacrificateur, et ses frères, les sacrificateurs, se levèrent et battirent la porte des brebis. Ils la sanctifièrent et en posèrent les battants, et ils la sanctifièrent jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la tour de Hananéel.
Cette multitude exprimait bien l'état du peuple juif, comme celui de tout homme devant Dieu. Nous avons déjà remarqué que chacune des infirmités que le Seigneur guérissait figurait un côté de l'état de l'homme en chute, incapacité de marcher, de voir, d'agir, de parler, d'entendre, selon la pensée de Dieu. Sachant son peuple sujet à toutes ces infirmités, Dieu s'était présenté à lui comme celui qui le guérit. Voir Exode 15, verset 26.
Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes tous ses statuts, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit.
Psaume 103, verset 3.
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités.
Fidèle à ce qu'il est, malgré toute l'infidélité du peuple dès le commencement, Dieu agissait encore en miséricorde à son égard. Bethesda signifie « maison de miséricorde ». En envoyant à certaines époques un ange agiter l'eau de ce réservoir, et le premier qui entrait après que l'eau avait été agitée était guéri de quelque maladie qu'il fût pris, verset 4. Dieu se sert des anges comme d'agents en faveur de son peuple terrestre sous le régime de la loi. Ils sont des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Hébreux 1, verset 14. Dieu les emploie aussi en faveur des siens actuellement. Si tous ces infirmes représentaient l'état dans lequel le péché a placé l'homme, il y en avait un entre tous qui figurait tout spécialement l'état de l'homme sous la loi. C'était un malheureux, infirme depuis 38 ans. Pourquoi donc, se trouvant à proximité d'un moyen de guérison aussi sûr, demeurait-il dans le même état sans en profiter? Parce que le remède que la bonté de Dieu lui offrait exigeait de la force chez celui qui voulait l'employer. Or, ce qui caractérisait précisément la maladie de ce malheureux, c'était l'absence de force. Si son état est celui de tout homme sous la loi, le moyen de guérison de Bethesda illustre cette loi. Par elle, Dieu demandait à l'homme de faire « Fais cela et tu vivras », et nul n'a pu l'accomplir. Le péché a ôté à tout homme la capacité de faire le bien, malgré toutes ses prétentions et même ses bons désirs. Laisser l'homme à côté de ce moyen sans intervenir autrement en sa faveur, c'était sa perdition éternelle. Pour l'en sortir, il fallait une puissance opérante en dehors de lui. C'est ce que Dieu fit en envoyant son Fils dans ce monde, comme nous allons le voir. Voyant cet homme couché là, et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps, Jésus lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne qui, lorsque l'eau a été agitée, me jette dans le réservoir, et pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Versets 6 et 7. Cette réponse résume fidèlement sa triste condition. Incapable lui-même, il ne trouvait aucune aide en ceux qui l'entouraient, car ils avaient tous assez à faire pour leur propre compte. De même, l'homme naturel ne peut accomplir la loi. Il ne trouve personne qui lui aide, la capacité manquant à tous. Romains 8, verset 7.
La pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas.
Il n'y a donc point de ressources ici-bas. Cette constatation a été faite par Dieu durant les 4000 ans d'expérience qui précédèrent la venue de Christ dans ce monde, qui eut lieu, dit l'apôtre en Romains 5, verset 6, au temps convenable, alors que nous étions sans force.
Car Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable, est mort pour des impies.
Le terrain était prêt pour le déploiement de la puissance de Dieu en grâce. Jésus dit à l'infirme, « Lève-toi, prends ton petit lit et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, et il prit son petit lit et marcha. Versets 8 à 9. On pouvait s'attendre à ce que Jésus offrit à cet homme de lui aider. Dieu l'avait fait par tous les moyens possibles. Il avait favorisé son peuple de toute manière. Il l'avait placé dans des conditions exceptionnelles matériellement, lui avait donné sa loi, avait habité au milieu de lui avait envoyé ses prophètes, mais sans qu'aucune de ces circonstances favorables n'aboutît à un résultat quelconque, sinon à démontrer l'incapacité de l'homme. Dès qu'il est placé sous une responsabilité, tout fait défaut. C'est pourquoi Jésus vient, afin de tout accomplir lui-même en faveur de l'homme incapable. Il n'est donc pas un aide-sauveur. Il ne voulait pas plus aider à cet infirme qu'il ne voulait enseigner Nicodème sous la loi. Dieu ne peut utiliser l'homme naturel, car rien n'est utilisable chez lui. Tout le mouvement, toute la puissance doivent venir de lui. Sa parole, parce qu'elle est la parole de Dieu, suffit pour communiquer la force qui fait complètement défaut à tout pécheur. Aussitôt l'homme fut guéri. Il en va de même pour la conversion d'une âme. Celui qui croit a la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui le dit. Il a comme l'infirme eut la force de se lever, de marcher et de porter son lit. Grâce merveilleuse de la part de Dieu que le don de son Fils. Sans sa venue, nous périssions tous loin de lui. Combien cela doit engager ceux qui cherchent encore en eux quelque force ou quelque bien à détourner leurs pensées d'eux-mêmes pour les fixer sur Jésus. Car aujourd'hui il dit encore à chacun « Veux-tu être guéri ?» Il apporte lui-même, par sa parole, ce qu'il faut pour guérir de la terrible morsure du péché et pour vivifier, comme nous le voyons dans le courant de ce chapitre. Les Juifs et le sabbat, versets 10 à 16.
Lecture de la parole. Les Juifs donc dirent à celui qui avait été guéri, « C'est un jour de sabbat, il ne t'est pas permis de prendre ton petit lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri, celui-là m'a dit, prends ton petit lit et marche. » Ils lui demandèrent donc, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton petit lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était retiré de là, une foule se trouvant dans ce lieu. Après ces choses, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu es guéri, ne pêche plus, de peur que pis ne t'arrive. » L'homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et à cause de cela, les Juifs persécutaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait ces choses en un jour de sabbat.
Lecture de l'étude. Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Aussi les Juifs, voyant l'infirme guéri emporter son lit, lui dirent « Il ne t'est pas permis de prendre ton petit lit ». Le sabbat, comme nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de le dire dans nos entretiens sur les évangiles précédents, était le signe de l'alliance de Dieu avec son peuple terrestre. Exode 31, verset 13.
« Toi parle aux fils d'Israël, disant, « Certainement vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, en vos générations, pour que vous sachiez que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. »
Dieu montrait par là son désir de faire participer le peuple à son repos, mais ce repos impliquait l'obéissance au commandement de l'Éternel. Personne n'en jouissait autrement. On pouvait observer le sabbat, mais non sa véritable signification. Tant que le péché était là, il ôtait à l'homme le vrai repos, quoiqu'il voulût se reposer avec le péché. Ce repos, il le cherche toujours, mais ne peut l'obtenir sans Christ, sans l'activité de l'amour du Père et du Fils, comme nous le verrons plus loin. Dieu est amour, il veut le bonheur de sa créature. Il trouve sa satisfaction à rendre heureux. Il y travaille maintenant. L'homme guéri répondit au Juif, « Celui qui m'a guéri, celui-là m'a dit, prends ton petit lit et marche. » Les Juifs veulent savoir qui lui a adressé cette injonction. Ils ne lui demandent pas qui t'a guéri. Dur de cœur, il s'embarrassait bien peu du fait que cet homme eût été guéri ou non, pourvu que le sabbat fût observé. Ces Juifs orgueilleux comprenaient bien que, si on mettait de côté le sabbat, ainsi que tout le système auquel il appartenait, eux le seraient aussi. C'était leur condamnation. C'est pourquoi ils tenaient si fort au sabbat et aux ordonnances légales qui leur donnaient de l'importance. L'homme ne savait pas à qui il devait sa guérison. Jésus s'était retiré de suite à cause de la foule. Mais il le retrouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu es guéri, ne pêche plus, de peur que pis ne t'arrive. » Verset 14. Nous savons que les Juifs, étant sous le gouvernement direct de Dieu, portaient en châtiment les peines de leurs péchés. Jésus laisse donc l'homme sous ce gouvernement. Cette guérison ne comportait pas le pardon éternel des péchés, mais nous pouvons penser que l'homme l'obtint plus tard, après avoir fait la connaissance de Jésus d'une manière si merveilleuse. Ayant appris qui l'avait guéri, il alla le dire aux Juifs qui persécutèrent Jésus et cherchèrent à le faire mourir. Cet homme n'avait probablement pu calculer les conséquences de ce renseignement. À cause de son existence misérable et isolée, il ignorait sans doute de quelle haine les Juifs poursuivaient Jésus. Le travail du Père et du Fils, versets 17 à 24.
Lecture de la parole. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille. » À cause de cela donc, les Juifs cherchaient d'autant plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais aussi parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. Jésus donc répondit et leur dit, « en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire une chose au Père, car quelque chose que celui-ci fasse, cela le Fils aussi de même le fait. Car le Père aime le Fils, et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. » Car comme le Père réveille les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu'il veut. Car aussi le Père ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Lecture de l'étude. Jésus répondit aux Juifs, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille », verset 17. Précieuse déclaration. Elle découle de l'amour infini de Dieu qui se révèle comme Père en son Fils bien-aimé. Puisque tout le travail de l'homme est vain, sinon pour l'amener en jugement, Dieu travaille pour le sortir de son état de péché. Après les 6 jours de la création, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Il se reposa le 7e. Mais quand le péché entra, tout se gâta. L'homme, chef-d'œuvre de la création, tombe dans la souffrance et la mort. Donc, pas de repos ni de bonheur. Dieu aurait pu anéantir tout ce qu'il avait créé, pour ôter de devant lui l'homme et la création souillée. Mais cette première création était provisoire. Dieu avait en vue des cieux nouveaux, une nouvelle terre, et des hommes parfaits pour l'habiter éternellement. C'est pourquoi il dut se remettre à l'œuvre. Il ne pouvait se reposer quant à l'homme lorsqu'il le voyait souffrir, incapable de sortir de la terrible condition dans laquelle le péché l'avait placé. Son amour voulait le rendre heureux. Voilà le travail que le Fils effectuait en communion avec son Père qui ne lui permettait pas de rester inactif un jour de sabbat. Il ne pouvait jouir du repos au milieu d'une scène de péché et de souffrance. Une fois l'œuvre de Dieu accomplie, quand tous les saints seront introduits dans son repos, Dieu se reposera dans son amour. Hébreux 4, verset 3 et 9 à 11.
Car nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, comme il a dit, « Ainsi je jurai dans ma colère, s'ils entrent dans mon repos, bien que les œuvres aient été faites dès la fondation du monde. » Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes propres. Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en imitant une semblable désobéissance.
Sophonie 3, verset 17.
L'Éternel ton Dieu au milieu de toi est puissant. Il sauvera, il se réjouira avec joie à ton sujet, il se reposera dans son amour, il s'égaiera en toi avec chant de triomphe.
Tous ceux qui en auront bénéficié se trouveront dans l'état définitif et éternel introduit dans le repos de Dieu. Au lieu de réjouir les Juifs, la réponse de Jésus créa un motif nouveau pour le faire mourir, car non seulement il violait le sabbat, mais aussi parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu, verset 18. Ils avaient conclu, avec raison, que puisque Jésus appelait Dieu son Père, il était un avec lui. En réponse à leur indignation, Jésus expose toute la vérité quant à son union avec son Père et au travail qu'il accomplissait. Si Jésus était vraiment Dieu manifesté en chair, il agissait aussi dans la dépendance de Dieu. Le Père et le Fils, quoique distincts, n'étaient pas deux personnes indépendantes. Le Fils, expression de l'amour du Père, faisait, dans une obéissance parfaite, ce que le Père lui prescrivait. Il leur dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire une chose au Père, car quelque chose que celui-ci fasse, cela le Fils aussi de même le fait. Verset 19. Ainsi les œuvres du Fils, de même que ses paroles, sont celles du Père. Cela aggravait la culpabilité des Juifs qui ne recevaient pas Jésus. Une foule de passages présente cette unité d'action du Père et du Fils. Voir entre autres, verset 36.
« Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données pour les accomplir, ces œuvres mêmes que je fais rendent témoignage de moi que le Père m'a envoyé. »
Chapitre 7, verset 17.
« Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu ou si moi je parle de par moi-même. »
8, verset 26 à 29.
« J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger. » Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et les choses que j'ai ouïes de lui, moi je les dis au monde. Ils ne connurent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que c'est moi, et que je ne fais rien de moi-même, mais que selon que le Père m'a enseigné, je dis ces choses. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi je fais toujours les choses qui lui plaisent.
10, verset 25.
Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Les œuvres que moi je fais au nom de mon Père, celles-ci rendent témoignage de moi. »
etc. Jésus continue en ces termes, « Le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. » Verset 20. Jésus venait de guérir l'infirme de Bethesda. Mais c'était loin d'être tout ce que le Père voulait qu'il fît, car cet homme guéri demeurait assujetti à la loi et sous les conséquences du péché. Il fallait une délivrance plus grande que celle-là en faveur de l'homme perdu, une œuvre qui étonnerait les Juifs, celle de la résurrection par laquelle l'homme sortirait de la mort. La résurrection de Lazare la manifesta. « Car, dit-il, comme le Père réveille les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ce qu'il veut. Car aussi le Père ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Verset 21-23. Les Juifs ne pouvaient nier que Dieu eut le pouvoir de vivifier des morts, car il croyait à la résurrection au dernier jour. Donc le Fils, un avec le Père, vivifiait aussi ceux qu'il voulait. Et plus encore, les Juifs savaient qu'il y aurait un jugement. Ils devaient apprendre qu'il aurait lieu par le Fils qu'il méprisait, car le Père lui a remis tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Les Juifs prétendaient honorer Dieu en rejetant son Fils qui était un avec le Père. Ils dirent à l'aveugle devenu voyant, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Chapitre 9, verset 24. Avant la venue de Jésus, les Juifs honoraient Dieu, objet de leur culte. Ils le connaissaient comme le seul vrai Dieu, mais des lèvres seulement, et avec un cœur fort éloigné de lui, leur dit-il en Ésaïe 29, verset 13.
Et le Seigneur dit, « Parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et qu'ils m'honorent de leurs lèvres, et que leur cœur est éloigné de moi, et que leur crainte de moi est un commandement d'homme enseigné. »
Depuis que Jésus manifestait ici-bas Dieu le Père, on ne pouvait honorer le Père sans honorer le Fils, puisque le Père et le Fils ne sont qu'un. Aujourd'hui encore, on accorde à Dieu la divinité, la toute-puissance, la toute-science, mais on les refuse au Fils, tout en le mettant à la tête des hommes de bien. Ce genre d'honneur témoigne du mépris vis-à-vis du Père comme vis-à-vis du Fils. Tous devront ployer les genoux devant lui. Au nom de Jésus est-il dit en Philippiens 2. Il y a deux manières d'honorer le Fils. On peut croire en lui durant le temps de la grâce. Les Juifs alors, comme les hommes d'aujourd'hui, tirer prétexte de l'abaissement dans lequel le Fils de Dieu est venu dans ce monde pour lui refuser son titre et l'honneur qui lui est dû. Mais ceux qui croient en lui durant ce temps reçoivent la vie, la paix. Le cœur rempli d'amour pour le Fils, ils l'honorent, lui sont soumis, l'adorent, lui attribuent toutes les gloires qu'il possède et dont il est digne pour le temps et l'éternité. Mais ceux qui ne croient pas en lui, qui discutent de la divinité de sa personne, demeurent dans leur péché et seront obligés de l'honorer un jour. Ils ploieront les genoux devant lui au jour du jugement. Philippiens 2, versets 10 et 11.
Afin qu'au nom de Jésus se ploient tous genoux des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Comment désirez-vous honorer Jésus, lecteur? Le verset 24 nous dit comment on peut faire partie de ceux qui honorent le Fils comme Sauveur dès maintenant. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il faut donc entendre la parole de Jésus, celle de Dieu le Père, et croire, non pas en Dieu simplement, mais comme en celui qui envoya son Fils dans le monde quand il vit l'homme incapable d'être sauvé par aucun autre moyen. Il faut croire au Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Remarquez que ce n'est pas croire en lui, mais croire Dieu, croire ce qu'il dit et ce qu'il fait. Croire en Dieu, c'est croire qu'il existe. Tous les Juifs le croyaient, mais cela ne sauve pas. Celui qui entend et croit entre en possession de trois choses. Il a la vie éternelle en contraste avec la vie périssable de l'homme en chute. En conséquence, il ne vient pas en jugement, car il possède la vie à laquelle aucun péché ne peut être attaché, et parce que Jésus a été en jugement à sa place. Troisièmement, il est passé de la mort à la vie, car non seulement l'homme coupable doit venir en jugement, mais il est moralement mort pour Dieu, mort dans ses fautes et ses péchés. La grâce de Dieu a pleinement répondu à toutes les faces de notre misérable état. Comment ne pas croire, puisque cette simple foi nous acquiert de tels titres pour l'éternité? L'heure actuelle, versets 25 à 27.
Lecture de la parole. En vérité, je vous dis que l'heure vient. Et elle est maintenant que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils aussi d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné autorité de juger aussi, parce qu'il est Fils de l'homme.
Lecture de l'étude. Nous venons de voir que la troisième chose qu'obtient la foi, c'est de passer de la mort à la vie. Le Seigneur dit, au verset 25, quand ce changement peut avoir lieu. En vérité, je vous dis que l'heure vient, et elle est maintenant que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Cette heure, celle du temps de la grâce, commençait lorsque Jésus était ici-bas, pour se continuer jusqu'à son prochain retour. Durant ce temps, ceux qui sont moralement morts pour Dieu, état de tout homme inconverti, entendent la voix du Fils de Dieu, sont vivifiés, passent de la mort à la vie. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils aussi d'avoir la vie en lui-même. Verset 26. Cette œuvre du Fils s'accomplit encore aujourd'hui, grâce à Dieu. Cette heure dure toujours pour la conversion de quiconque entend la voix du Sauveur. On peut raisonner disant, comment l'homme est-il responsable de croire puisqu'il est mort? Si on ne pouvait lui faire entendre que des paroles d'homme, elles resteraient certainement sans effet. Mais la parole du Fils de Dieu peut être entendue des morts et les vivifier, parce que c'est une parole divine. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, chapitre 4, verset 2 de la seconde épître, prêche la parole. Toute personne mise en contact avec la parole de Dieu peut être sauvée. De là l'importance de prêcher la parole de Dieu, de faire entendre la voix du Fils de Dieu et non des paroles de sagesse humaine. De là, plus encore, l'importance qu'il y a à écouter et à croire. Si Dieu a donné à son Fils sur la terre le pouvoir de vivifier, il lui a aussi donné autorité de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Il a droit sur tous les hommes. Il vivifie ceux qui entendent et croient, et par conséquent, il jugera ceux qui ne veulent pas croire. Jésus jugera comme Fils de l'homme parce qu'il s'est abaissé et a encouru le mépris dans sa nature humaine. Les hommes prirent occasion de son humilité, de sa douceur, de sa débonnaireté, de sa grâce pour l'humilier plus qu'aucun autre. Son Père veut qu'il soit glorifié dans la nature où il a connu l'humiliation. Il exercera les jugements lorsqu'il aura achevé l'œuvre actuelle de vivification des morts. Il apparaîtra dans sa gloire comme roi des rois et seigneur des seigneurs pour le jugement des vivants et, après le règne millénaire, il siégera sur le grand trône blanc pour le jugement des morts. L'heure qui vient, versets 28 et 29.
Lecture de la parole. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement.
Lecture de l'étude. Après l'heure actuelle, celle de la grâce, dans laquelle ceux qui entendent la voix du Fils de Dieu vivent, vient une autre heure, celle de la résurrection de tous ceux qui sont dans les sépulcres. Ne vous étonnez pas de cela, dit Jésus, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement. Il y avait de quoi s'étonner en voyant Jésus ressusciter Lazare et vivifier les morts. Mais l'heure approchait où la même puissance ferait sortir de leur sépulcre tous les morts. Remarquez qu'il n'est pas dit, comme au verset 25, que ceux qui auront entendu la voix vivront, mais que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme et ils sortiront. Aujourd'hui, lorsqu'on prêche l'Évangile, ceux qui l'entendent et croient vivent de la vie nouvelle. Ceux qui ne croient pas demeurent dans leur état de mort pour Dieu. Ils continuent leur vie, selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air. Éphésiens 2, verset 2.
Dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance.
Ils continuent de vaquer à leurs affaires comme si Dieu ne leur avait jamais parlé, même comme s'ils n'existaient pas, et finalement leur vie ici-bas se terminera par la mort du corps. Dans l'heure qui vient, personne ne pourra se soustraire aux effets de la voix du Fils de l'homme. Tous ceux qui sont dans les sépulcres sortiront. Jour de gloire pour ceux qui sont morts en Christ. Semblables à leur Sauveur, ils entrent dans la gloire éternelle. Jour effroyable pour ceux qui n'ont pas voulu écouter la voix du Fils de Dieu, qui ont méprisé la grâce en lui préférant les jouissances éphémères de ce monde, contre lesquels ils ont échangé une éternité de malheur. Entrer peut-être dans la mort en pensant que tout était fini avec la vie présente, en Hadès ils ne se font déjà plus d'illusions. Ils savent leur sort fixé pour l'éternité, dans les ténèbres de dehors, en attendant de sortir aussitôt que se fera entendre la voix puissante de l'homme Jésus qu'ils ont méprisé, pour paraître en jugement devant lui. Les ressuscités se divisent en deux classes, ceux qui ont pratiqué le bien et ceux qui ont fait le mal. Les uns ressuscitent en résurrection de vie, les autres en résurrection de jugement. Pour pratiquer le bien, il faut avoir la vie de Dieu qu'on obtient en entendant et en croyant la parole vivifiante du Fils de Dieu. Sans cette vie, il est impossible de faire ce qui est appelé le bien au jour du jugement. On peut accomplir beaucoup de bonnes choses sans avoir la vie de Dieu. Mais on ne peut faire le bien qui compte au jour du jugement que si l'on possède la vie divine. Seule elle le produit. Ceux qui ont fait le mal sont ceux qui ne possèdent pas cette vie. Ils l'ont refusée parce qu'ils s'estimaient bons tels qu'ils étaient. Ils ont oublié que la mesure du bien et du mal est en Dieu qui est lumière. La parole de Dieu apporte cette lumière dans l'âme afin que chacun comprenne son état de péché et profite de la grâce qui donne la vie. Le mal est tout le fruit de la vieille nature, comme le bien est le fruit de la nouvelle. Si l'on ne connaissait de la résurrection que ce que disent les versets 28 et 29, on pourrait croire, comme beaucoup, que tous ressuscitent au même moment et qu'il se fait alors un triage des justes et des injustes devant le tribunal, comme cela aura lieu au jugement dont parle Matthieu 25, versets 31 à 46, où le Seigneur jugera ce qu'il trouvera vivant lorsqu'il viendra pour régner.
Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les chèvres, et il mettra les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais infirme et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus auprès de moi. » Alors les justes lui répondront disant, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire, et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu, et quand est-ce que nous t'avons vu infirme ou en prison et que nous sommes venus auprès de toi ?» Et le roi répondant leur dira, « En vérité, je vous dis, en tant que vous l'avez fait à l'un des plus petits de ceux-ci qui sont mes frères, vous me l'avez fait à moi. » Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, qui est préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, infirme et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondront, disant, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou avoir soif ou être étranger ou nu ou infirme ou en prison et que nous ne t'avons pas servi ? » Alors il leur répondra disant, « En vérité je vous dis, en tant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne me l'avez pas fait non plus à moi. Et ceux-ci s'en iront dans les tourments éternels et les justes dans la vie éternelle. »
La résurrection de vie est séparée de celle de jugement par une période d'au moins 1000 ans. Les justes sortent de leur tombeau les premiers. C'est pourquoi leur résurrection est dite d'entre les morts, fait absolument nouveau, même pour les disciples qui, en bon juif, croyaient à une résurrection générale au dernier jour. Nous apprenons par les écrits de l'apôtre Paul que la première résurrection a lieu en plusieurs fois. Au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, qui ne traite que de la première résurrection, il est dit « Comme dans l'Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ tous seront rendus vivants. » Mais chacun dans son propre rang, les prémices, Christ, puis ceux qui sont du Christ à sa venue, versets 22-23. Christ, le premier, est ressuscité d'entre les morts. Il a remporté la victoire sur la mort après avoir subi le jugement à la place de tous ceux qui auront part à la première résurrection. Il s'est assis à la droite de la majesté dans le ciel, en attendant de se lever pour ressusciter les saints endormis et transmuer les vivants. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18.
Car nous vous disons ceci, par la parole du Seigneur, que nous, les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles.
À partir de ce moment-là, jusqu'à l'apparition de Christ en gloire pour l'établissement de son règne, il mourra encore des croyants parmi les Juifs et les gentils fidèles au travers de ces temps terribles de persécution pour le résidu croyant. À la venue glorieuse de Christ, ils sont ressuscités pour régner avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « ceux qui sont du Christ à sa venue », que ce soit sa venue pour l'Église et les saints endormis ou sa venue en gloire. C'est en rapport avec cette dernière phase de la résurrection d'entre les morts qu'elle est appelée la première. C'est ici la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir. Apocalypse 20, verset 6. Remarquons encore que la première résurrection se termine au début du règne de Christ, car durant toute la durée du millénium, il ne meurt plus de juste. À ce moment-là, la mort a été engloutie en victoire. 1 Corinthiens 15, verset 54.
Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie en victoire ».
Ceux qui mourront pendant le règne de Christ seront des méchants. Chaque matin, je détruirai tous les méchants du pays. Psaume 101, verset 8. Celui qui exercera cette grande puissance est cet homme que les Juifs voulaient faire mourir parce qu'il n'observait pas le sabbat et disait que Dieu était son père. Effectivement, ils l'ont fait mourir en le pendant au bois maudit de la croix. Mais quel moment pour tous ces misérables, comme pour tous les inconvertis, lorsqu'à sa voix puissante, ils sortiront de leur sépulcre pour paraître en jugement devant lui. Après l'avoir méprisé comme sauveur, ils devront l'honorer comme juge, à l'égal de Dieu, et reconnaître la justice de leur éternelle condamnation. Dieu veuille que tous les lecteurs de ces lignes l'honorent maintenant en croyant en lui et l'adorent déjà comme Sauveur et Seigneur, en attendant de le faire dans la gloire avec tous les rachetés. Quadruple témoignage rendu à Jésus, versets 30 à 40.
Lecture de la parole. Je ne puis rien faire, moi, de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si moi je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous, vous avez envoyé auprès de Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais moi, je ne reçois pas témoignage de l'homme. Mais je dis ces choses afin que vous, vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe ardente et brillante, et vous, vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a données pour les accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, rendent témoignage de moi que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, a rendu témoignage de moi. Jamais vous n'avez entendu sa voix ni vu sa figure, et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous. Car celui-là que lui a envoyé, vous, vous ne le croyez pas. Sondez les Écritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie.
Lecture de l'étude. Jésus continue d'affirmer que toute la réalité de son ministère découlait de sa dépendance absolue de son Père, dont il faisait toujours la volonté. De la sorte, en le rejetant, on rejetait le Père qui l'avait envoyé. Et comme la connaissance du Père était celle de Dieu en grâce pour donner la vie aux pécheurs perdus, en le rejetant, on demeurait éternellement sous les conséquences de ses péchés. Jésus dit aux Juifs, « Je ne puis rien faire, moi, de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, verset 30-31. La dépendance du Seigneur, l'homme parfait, est présentée d'une manière touchante lorsqu'il dit « Je ne puis rien faire de moi-même ». Il savait pourtant qu'il était un avec le Père, le Fils éternel de Dieu, Créateur des cieux et de la terre. Il a voulu revêtir l'humanité pour révéler Dieu comme Père et réaliser la position de l'homme parfait, la dépendance de son Dieu et Père, pour accomplir sa volonté. « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté », Hébreux 10, verset 7, cela afin de venir, par obéissance, nous chercher dans la mort où notre désobéissance nous avait plongés. En présence de la volonté arrêtée des Juifs de ne pas le reconnaître fils de Dieu, il ne veut pas rendre témoignage de lui-même, verset 31, mais il invoque quatre témoignages rendus de lui. Le premier, verset 32 à 35, est celui de Jean le baptiseur. Ce n'était pas qu'il chercha le témoignage de l'homme pour sa propre satisfaction, mais c'était pour sauver les hommes, verset 34. Il leur rappelle qu'ils ont envoyé des messagers auprès de Jean, pour lui demander s'il était le Christ, chapitre 1, verset 19 à 28.
Et c'est ici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Et il confessa, et ne nia pas, et confessa « Moi, je ne suis pas le Christ ». Et ils lui demandèrent, « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Et il dit, « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent donc, « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés, « Que dis-tu de toi-même ? » Il dit, « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Faites droit le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète. » Et ils avaient été envoyés d'entre les pharisiens. Et ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, disant, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y en a un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi, duquel moi je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. » Ces choses arrivèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait.
Il leur répondit par la négative, mais ajouta qu'il y en avait un au milieu d'eux, inconnu de tous, dont il ne méritait pas de délier la courroie de la sandale. Celui-là était le Christ. Et lorsqu'il fut manifesté, il déclara qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et, plus loin, qu'il était le Fils de Dieu. À son tour, Jésus rend témoignage à Jean, disant, « Celui-là était la lampe ardente et brillante, et vous, vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière. » Verset 35. Le peuple se réjouissait en se voyant honoré de la présence d'un prophète, car depuis Malachie, pendant quelque 400 ans, il n'y en avait pas eu. Mais ce prophète-là annonçait le Messie, envoyé immédiatement avant lui, afin de l'introduire au milieu du peuple. Tel était l'objet de son ministère, et non de donner occasion au peuple de se glorifier de lui au milieu de son état de péché. Ainsi, pour profiter du ministère de Jean, il fallait recevoir Jésus, non seulement comme Messie, mais comme Fils de Dieu. Malgré ce témoignage évident, il s'y refusait. Le second témoignage est celui des œuvres que Jésus accomplissait. « Mais moi, dit Jésus, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données pour les accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, rendent témoignage de moi que le Père m'a envoyé. » Verset 36. Les œuvres que Jésus faisait, nul autre ne pouvait les accomplir. Elles portaient toutes le cachet divin d'amour et de puissance. Les deux miracles accomplis à Cana, chapitre 2 et 4, la guérison de l'infirme de Bethesda et tous ceux qui l'accomplissent encore, tous témoignaient que Jésus était l'envoyé du Père, dépendant de lui et un avec lui. Le troisième témoignage est celui du Père lui-même. « Et le Père qui m'a envoyé, lui, a rendu témoignage de moi. » Verset 37. Au baptême de Jésus, une voix vint du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir » Matthieu 3, verset 17. Au chapitre 12, verset 30, lorsqu'en réponse à la prière de Jésus, la foule croit entendre un tonnerre ou la voix d'un ange, il leur dit « Cette voix n'est pas venue pour moi, mais pour vous. » Le Seigneur dit aux Juifs, en parlant de son Père, « Jamais vous n'avez entendu sa voix ni vu sa figure, et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous. Car celui-là que lui a envoyé, vous, vous ne le croyez pas. » Verset 38. S'ils avaient eu sa parole en eux sans voir Dieu, ce qui est impossible, ils l'auraient reconnu en tout ce que Jésus était. « Personne ne vit jamais Dieu », avait-il dit au chapitre 1, verset 18. « Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. » En ne croyant pas Jésus, ni le témoignage rendu par le Père, il demeurait en dehors des effets de la venue de Jésus en grâce, sous le jugement éternel de Dieu. Les Écritures présentaient le quatrième témoignage. Jésus leur dit « Sondez les Écritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Verset 39-40. Le grand sujet de la parole est le Fils de Dieu. Prétendre avoir recours à cette parole et rejeter Christ comme Fils de Dieu, c'est absolument vain. Si le Seigneur n'était pas venu dans ce monde, tout ce que Dieu voulait quant au salut de l'homme ne pouvait avoir son accomplissement. Vérité importante à méditer par beaucoup qui prétendent aujourd'hui avoir une certaine foi en la parole de Dieu, au moins en partie, tout en ne croyant pas à la divinité de Christ. De même aussi, on ne peut avoir aucune véritable intelligence de la parole si l'on ne voit pas que Christ en est le grand sujet. Voir Luc 24, versets 25 à 27.
Et il leur dit, « Ô gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. »
Et versets 44 et 45.
« Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures. »
La parole conduit à Christ le Sauveur, et il est Sauveur parce qu'il est Fils de Dieu. Celui en qui ce résultat n'est pas produit demeure dans son état de perdition. Il faut aller à Jésus pour avoir la vie. Si quelqu'un s'y refuse, il est perdu. Remarquez que Jésus dit « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Tous ceux qui seront perdus l'auront voulu, car Dieu a fait le nécessaire afin que chacun puisse savoir que le moyen du salut était en son Fils, envoyé par lui dans ce monde. On entend souvent dire « Je ne puis pas croire », fallacieux prétexte pour excuser sa volonté arrêtée de ne pas se soumettre à la parole de Dieu. Ceux qui tiennent ce langage seraient plus droits en disant « Je ne veux pas croire ». Personne ne sera jugé pour n'avoir pu croire et pour n'avoir pas voulu. Conséquences qui découlent du refus de recevoir Jésus, versets 41-43.
Lecture de la parole. Je ne reçois pas de gloire des hommes, mais je vous connais, et je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là vous le recevrez.
Lecture de l'étude. Jésus était venu de la part de son Père et, comme nous venons de le voir, les témoignages n'avaient pas manqué au peuple pour qu'il le reçût en pleine confiance. Mais les Juifs ne le voulaient pas. Comme jugement, Jésus leur annonce qu'il en viendra un autre en son propre nom et qu'ils le recevront, verset 43. Cet homme-là, l'Antichrist, s'élèvera du milieu des Juifs incrédules rentrés dans leur pays et sera leur roi. Il répondra pleinement aux pensées des Juifs apostats. Il leur apportera des choses qui satisferont les besoins de leur cœur naturel remplis de ténèbres et d'erreurs, et qui leur conviendront mieux que la parole de Jésus, la vérité qui les jugeait. Il fera de grands miracles par la puissance de Satan. On les reconnaîtra, tandis que ceux que Jésus faisait au nom de son Père étaient attribués aux démons. Quelle terrible conséquence du refus de recevoir le Seigneur! C'est à quoi s'expose le monde christianisé qui, dans le même temps, après l'enlèvement de l'Église, sera aussi enlacé par cette énergie d'erreur pour croire le mensonge, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, afin que tout cela soit jugé qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. De Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. Ce qui empêche de croire, verset 44.
Lecture de la parole. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire l'un de l'autre, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul?
Lecture de l'étude. Jésus leur dit encore, « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire l'un de l'autre, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» Nous ne pensons pas, à première vue, que ce qui empêche de croire est la recherche de la gloire ou de l'approbation d'autrui. Mais combien c'est vrai ! Jamais les hommes ne sauront approuver les pensées de Dieu. Elles leur sont étrangères, et surtout elles les condamnent, ce qu'ils comprennent toujours fort bien. L'homme aime qu'on dise du bien de lui. Dieu n'en dit point. Il lui dit qu'il est perdu, mais il lui envoie un sauveur. Or, comme cela l'abaisse à ses yeux et aux yeux de ses semblables, dont il cherche les éloges, il ne l'admet pas. On ne croit donc pas Dieu, parce qu'en le faisant, on attire sur soi la désapprobation des hommes. Nous savons que la conversion n'est pas le moyen de se faire bien voir dans le monde, tandis que, si l'on cherche la gloire qui vient de Dieu seul, son approbation, avec quel bonheur on recevra ses paroles. Si, au premier abord, elle juge, en montrant le triste état du pécheur, c'est afin de le conduire au Sauveur et de l'introduire dans la faveur de Dieu, en lui donnant la vie éternelle et la paix. Au verset 41, Jésus disait, « Je ne reçois pas de gloire des hommes, mais je vous connais, et je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Il ne recevait que celle de son Père dont il exécutait la volonté en cherchant toujours sa gloire. Nous devons en faire autant en tout et rester indépendants de l'opinion d'autrui. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10, verset 31. Si nous avons en nous l'amour de Dieu, nous pouvons agir de la sorte, car l'amour conduit toujours à faire ce qui plaît à celui que nous aimons. Les Juifs n'avaient pas l'amour de Dieu en eux. Pour cela, il faut avoir la vie de Dieu. Quand on la possède, on apprécie ce qui est de Dieu, ce qui lui plaît, et l'on peut repousser ce qui vient des hommes. Des dispositions tout au contraire animaient ces misérables Juifs et ceux qui ne possèdent pas la nature divine. La parole écrite, versets 45 à 47.
Lecture de la parole. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Il y en a un qui vous accuse, Moïse, en qui vous espérez. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles?
Lecture de l'étude. Les Juifs se vantaient de Moïse. Ils espéraient en lui, leur dit Jésus. Mais au jour du jugement, c'est Moïse qui les accusera. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui a écrit de moi, verset 46. Moïse avait dit, entre autres, « Je leur susciterai un prophète comme toi, du milieu de leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Deutéronome 18, verset 18. Les versets qui suivent prononcent le jugement sur ceux qui ne l'écouteront pas. Jésus leur dit encore, « Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles ?» Verset 47. Puisque les Juifs ne croyaient pas la parole écrite inspirée de Dieu, Jésus ne s'étonne pas de leur incrédulité à son égard. Non que ces paroles, celles de son Père, ne fussent pas de source et d'autorité divine. mais il établit la différence entre ce qui est écrit pour s'appliquer à tous les temps et la parole parlée qui a sa valeur pour l'instant seulement où elle est prononcée. Tout ce que Dieu a dit aux hommes, par quelque moyen que ce soit, a une valeur divine. Rien n'en doit être mis de côté. Mais tout ne nous a pas été rapporté. Ce qu'il a été consigné dans les divers livres de la Bible constitue les Écritures divinement inspirées. Par elles, Dieu nous a donné sa pensée à tous égards et pour tous les temps. Toutes les paroles de Jésus rapportées dans les Écritures font partie de la révélation de Dieu, comme les écrits de Moïse et tout ce qui était écrit à ce moment-là. Ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Jean 20, verset 31. Toutes les paroles, tous les actes de Jésus étaient parfaits, divins, conformes aux pensées de Dieu, et constituaient le témoignage rendu par lui. Mais de cela, rien ne nous est rapporté que ce qui sert à la révélation des pensées de Dieu pour tous les temps. J'en dis que, si les choses que Jésus a faites étaient écrites une à une, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qui seraient écrits. Chapitre 21, verset 25. Nous sommes heureux de posséder la parole écrite, parole sûre, divine, complète, à laquelle il n'y a pas à ajouter de nouvelles révélations, comme quelques-uns le prétendent aujourd'hui. Elle est la vérité. La vérité, a-t-on dit, est toute la vérité et rien que la vérité. L'apôtre Paul a reçu les révélations de Dieu pour compléter sa parole. Voir Colossiens 1, verset 25-26.
L'assemblée de laquelle moi je suis devenu serviteur selon l'administration de Dieu qui m'a été donnée envers vous pour compléter la parole de Dieu, savoir le mystère qui avait été caché dès les siècles et dès les générations, mais qui a été maintenant manifesté à ses saints.
L'Ancien Testament nous révèle les voies de Dieu envers les hommes et annonçait le Christ comme seul moyen de bénédiction pour la terre et les cieux, puisque toute l'activité de l'homme ne conduit qu'au jugement. Les évangiles présentent la personne et l'œuvre du Christ promis, et Paul a reçu les révélations concernant l'Église, l'épouse de Christ, sujet non révélé dans l'Ancien Testament. Après que Jésus fut remonté au ciel, il donna aussi à Jean la révélation des jugements par lesquels il entrera dans son règne, de même que celle du jugement final, de tout ce qui se passera jusqu'à l'introduction des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Dieu nous a donc communiqué tout ce que nous avions besoin de savoir jusqu'au moment où nous serons introduits dans la gloire. On ne peut rien toucher impunément à sa parole. Apocalypse 22, verset 18-19.
Moi, je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre, et que si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie et de la sainte cité qui sont écrits dans ce livre.
Elle est divinement inspirée. 2 Timothée 3, verset 16.
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.
Elle n'a pas été écrite par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé étant poussés par l'Esprit Saint, de Pierre 1, verset 21. Toute prétention à de nouvelles révélations vient de l'ennemi, le meurtrier et le menteur, qui continue toujours l'œuvre qu'il a commencée en disant au premier homme « Quoi ? Dieu a dit ?» Genèse 3, verset 1, pour mettre sa parole à la place de celle de Dieu, parole qui, malheureusement, fut écoutée, et l'est toujours par ceux qui, non seulement ne s'en tiennent pas à ce qui est écrit, mais à tout ce qui est écrit. Bénissons Dieu de ce qu'il nous ait conservé sa parole pour notre bénédiction présente et éternelle, en dépit de tous les efforts de l'ennemi pour la détruire, et croyons tous en elle avec la simplicité de l'enfant.